Emmanuelle Carinos, qui est doctorante en sociologie au CRESPA. Donc le titre de son intervention est toujours le même. Donc l'affaire Jo Le Fesneau, rapport de pouvoir dans la réception politico-judiciaire d'un clip de rap.
Voilà, ce sera surtout judiciaire. Pour revenir sur l'affaire, en septembre 2017, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, porte plainte aux côtés des syndicats de police contre le rappeur parisien Jo Le Fesneau, avec pour motif incitation à la violence, expression outrageante envers la police nationale, suite à la diffusion, un mois après la mort d'Adama Traoré, d'un clip sur YouTube intitulé « Bavure ». Après deux reports, le procès aura lieu le 27 octobre 2017 au sein de la 17e chambre, donc celle du droit de la presse, du tribunal de grande instance de Paris, et aboutira à une condamnation de plusieurs milliers d'euros d'amende pour l'artiste. Alors ce procès se situe dans une longue chaîne, on va dire, de pénalisation politico-juridique du rap, étudiée en sciences sociales déjà par Karim Mamou, Marie Sonnette, Florent Laroche. Je ne reviens pas sur cette histoire. Toujours est-il que la matrice de cette pénalisation du rap réside souvent dans l'idée d'une forme de violence qui traverserait cette musique et irait, selon les parties civiles engagées en tout cas, au-delà des lois sur la liberté d'expression telles que définies par l'article 29 de la loi de 81, y compris pour les œuvres d'art. Trois plaintes visent Jo Le Fesneau. L'une émane du commissaire du 20e arrondissement, notamment parce qu'il est identifiable sur le clip. L'autre du secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, donc un syndicat policier. Et enfin, un signalement de Bernard Cazeneuve, dont j'ai parlé, pour incitation à la violence, duquel découle la plainte de la préfecture de Paris. Donc d'emblée, le procès se situe dans un cadre un peu politique qui fait que ce n'est pas juste un fait divers. Ma communication s'appuie sur une ethnographie de ce procès, avec pour objectif d'analyser l'intrication des rapports sociaux de pouvoir à l'œuvre pendant son déroulement. Il s'agira de proposer une analyse des microprocessus de catégorisation, leurs usages rhétoriques dans les plaidoyers, les réquisitoires, mais aussi les questions et remarques de la juge et des assesseurs, et de montrer la manière dont la judiciarisation d'un clip de rap s'appuie sur des rapports sociaux de pouvoir. Dans le cas de Jo, qu'est-ce qu'une approche sociologique du procès nous permet de comprendre de son inculpation? Pourquoi a-t-il été condamné alors que la loi sur la liberté d'expression, les jurisprudences suite au procès de La Rumeur, c'est un autre procès de rappeur qui grossièrement autorise à parler de violence d'État un peu, et Orelsan, qui garantit dans une définition essentialisante, peu flatteuse du rap, le droit à un mode d'expression, je cite, brutal, provocateur, vulgaire, voire violent, puisqu'il se veut le reflet d'une génération désabusée et révoltée. En gros, pourquoi, malgré ces deux jurisprudences, Jo est quand même condamné? Est-ce lié à des raisons contextuelles, une forme d'opportunisme politique, à la négation de son statut d'artiste, voire de citoyen porteur d'une parole politique légitime? Et si oui, comment cette négation, cet effacement a-t-il été opéré? Il s'agira de voir comment les éléments formels s'imbriquent au rapport sociaux de pouvoir pour aboutir à cette condamnation. Bon, on étudiera en première partie, en gros, j'ai étudié le procès lui-même comme lieu d'expression de rapports sociaux de pouvoir, cadre à partir duquel s'opère un processus de double illégitimation artistique et politique. Ça sera dans une deuxième partie. Et dans un troisième temps, une analyse des mobilisations rhétoriques des deux côtés de la barre, de figures sociales négatives ou positives, le délinquant, le terroriste, l'artiste engagé, pour montrer comment la catégorisation juridique du neuf s'appuie sur des représentations et des rapports sociaux de pouvoir. Au niveau de la répartition spatiale, déjà, la salle est clairement divisée en deux parties. Vous avez une majorité de racisés noirs et maghrébins situés à droite, donc 20 personnes, 6 blanches dont moi, tandis que les bancs de gauche sont presque exclusivement composés de personnes blanches, 15 personnes, 13 blanches, dont la moitié sont des femmes, assez jeunes, puisqu'il s'agit pour la plupart des étudiantes en droit qui viennent voir le procès, qui sont mis de leur propre chef de ce côté du tribunal. Tous les avocats ont des poses lascives ou un peu relâchées, sauf Jo, droit comme un piquet devant son micro, vêtu d'une chemise blanche, dont on lui demandera comment il l'a acheté, ce qui est plutôt rare dans le cadre d'un procès. Quatre policiers blancs en cas de la salle ne se tiendront pas toujours à la neutralité qui leur est professionnellement imposée. Je note plusieurs incidents en gros qui contribuent à faire de la scène de procès à une scène un peu sociale tendue. Je n'ai pas le temps de venir dessus, mais plusieurs incidents contribuent à créer une ambiance tendue avec notamment les policiers blancs, la catégorie qui est visée en fait dans le clip et dans le témoignage de Jo sur le harcèlement qu'il subit après l'apparition du clip. comme opposé au soutien de Joël Fesneau, composé de sa famille et de proches. Je note l'absence de militants autres que, parce que, alors que Joe était soutenu à un moment par des militants, autres que des militants des quartiers populaires, un collectif décolonial qui s'appelle Parole d'honneur, ainsi qu'Amal Bentounsi, militante contre les violences policières, qui arrivera dans l'après-midi. Je note une majorité de femmes, par contre, dans la salle, et, y compris du côté des soutiens, ce qui me fait penser à l'idée que assister à un procès appartient plutôt au versant care du travail militant. Outre le public et la surveillance, l'opposition blanc-non-blanc se retrouve dans la composition du tribunal. Les deux assesseurs, le procureur, la juge, la greffière, les trois avocats des parties civiles sont blancs et blanches et ont une cinquantaine d'années. Seuls Joe et son avocat, Maître Saïd Harir, ne le sont pas de ce côté de la salle. Tous ces éléments contribuent à la création d'une atmosphère plus tendue que dans d'autres affaires jugées dans la 17e chambre et donnent l'impression de deux camps traversés par des rapports de pouvoir, de race, donc asymétriques, où le pouvoir, donc les représentants de la justice et les policiers qui surveillent, est davantage d'un côté que de l'autre. Les rapports de pouvoir dans ce cadre de procès, particulièrement perceptibles dans les formes prises par le paternalisme détenant de l'institution judiciaire vis-à-vis de Joe, on note l'usage de l'ironie, les avocats des parties civiles multiplient les expressions, les tons infantilisants. À titre exemplaire et pédagogique, monsieur, tout en respectant les codes à l'œuvre dans les cours de justice, c'est-à-dire le vouvoiement, l'appellation par monsieur, le nom de famille. Les antiphrases, figure de style par excellence de l'ironie, connotent la même idée. J'ai peut-être du mal à comprendre l'artiste, le talent qui sommeille chez monsieur Joël Fesneau, dira l'un des avocats avec un léger rictus dans la voix. On observe là encore la manière dont le paternalisme peut coexister avec le respect formel des usages qui ont cours dans les procès, et c'est peut-être là une des marques de ce que peuvent les dominants, c'est jouer avec les interstices entre le droit qui postule l'égalité formelle et leur habitus de dominant, tout en donnant l'impression d'être formellement irréprochable tout au long du procès. Le paternalisme, sous sa forme non ironique, sert aussi à la défense. Il était pressé d'avoir son clip, parce que c'est un enfant. Pourquoi ne le croirions-nous pas, dit Maître Saïd Harir dans sa plaidoirie. On voit ici avec la figure de l'enfant comment le paternalisme, symptôme de rapports sociaux de pouvoir, notamment postcoloniaux, s'appuie sur le jeune âge du prévenu et suggère que les rapports de race sont informés par l'âge. Pour contextualiser ce paternalisme utilisé en défense, c'est un classique en fait de l'histoire des pénalisations du rap. En 2015, par exemple, à Angoulême, deux jeunes rappeurs étaient poursuivis pour des paroles anti-flics. Ils le disent comme ça. Voilà ce que leur avocate Adeline Lacoste dira. À force de trop écouter un type de rap, on répète les mêmes choses sans vraiment penser ce que l'on dit. Ces deux-là n'ont pas voulu inciter à tuer les gens. Le rap est un genre de musique populaire qui s'appuie sur le rejet et le ressentiment, et elle qualifie leurs paroles de bêtises. La défense s'appuie sur l'illégitimation paternaliste du rap comme genre artistique, y compris dans ce procès. C'est donc dans ce cadre, on va dire, de violence symbolique, mépris de classe, paternalisme, porté par le lieu même du procès, que s'opère une double illégitimation, d'abord artistique, qui passe par un phénomène que, alors c'est un mot chelou, mais prosaïsation, c'est-à-dire rendre prosaïque. Ce que j'entends par là, c'est annuler des propriétés d'une œuvre artistique, le second degré, le droit à l'exagération, au personnage, à la métaphore, et qui aboutira à une illégitimation de la parole politique également. Durant tout le procès, en effet, Joe n'aura de cesse de ramener le débat sur le plan esthétique. Ses efforts constants signifient que le caractère esthétique de son œuvre ne va pas de soi. L'assesseur, au moment d'aborder la question de Bavure 2, donc le clip qui fait ensuite, évoque la lettre reçue du directeur des libertés publiques à ce sujet. Dans ce nouveau clip, il continue à afficher une défiance et un mépris envers les institutions de la République que sont la justice et la police. Défiance et mépris qui seraient, toujours selon la même lettre, à même d'éclairer sur la personnalité du rappeur. Cette personnalité serait forcément celle de la personne civile. À l'inverse, la seule question que posera l'avocat de Joe après son interrogatoire par la juge et l'assesseur portera sur ses vêtements dans le clip. Est-ce que vous vous baladez dans la rue, vous portez un bandana avec un t-shirt écrit « La banane » pour prouver, en fait, et donc Joe dit non, évidemment, pour prouver la distinction entre personne civile et artiste. Toutefois, le refus du personnage contribue à une première prise, on va dire, à cette prosaïsation du clip. Et on voit dans la lettre citée du directeur des libertés publiques comment elle est directement reliée à une délégitimation politique. L'autre prise à cette prosaïsation, c'est sur le débat sur les mots qui fait émerger une sorte de figure du barbare, en gros, qui ne parle pas la même langue que nous, opposé à une lutte pour la reconnaissance du caractère métaphorique de la violence langagière du côté de Joe. Alors, j'ai plein d'exemples sur ça, sur le débat sur les mots, pour aller vite, dompter, frapper. La déposition initiale écrit « Où sont les condés, on va les frapper ». Joe prétend qu'il faut entendre dompter, et ça a son importance, parce qu'en fait, dompter implique direct une lecture métaphorique, là où frapper peut être entendu au sens effectivement littéral. La plupart du temps, le côté avocat et juge et processeur, et assesseur, pardon, et procureur, vont privilégier le sens littéral, et Joe va sans arrêt parler plutôt du sens métaphorique. C'est pareil pour « il faut les fumer », il y a un vrai enjeu métaphorique sur le sens métaphorique de l'emploi du verbe « fumer ». C'est là où le procès du quai de Valmy, donc du nom d'un procès qui a eu lieu un an avant sur une voiture brûlée lors d'une manifestation, plane sur celui de Joe Lefeno. Et il termine en plus le matin où le procès de Joe devait commencer en septembre, donc c'est très compliqué. La juge prend la parole. Si vous dénoncez les violences policières, donc vous êtes contre les violences. Sur le thème « faut les fumer », vous mettez les images de la voiture brûlée quai de Valmy. Joe répond surpris. C'est au même moment. Juge, non, mais c'est pas longtemps après. Comment vous expliquez que vous n'avez pas d'autre manière de lutter contre les violences policières qu'avec l'appel à brûler les policiers ? Joe, à l'inverse, défendra l'idée qu'il utilise le verbe fumer au sens métaphorique, comme dans l'usage familier quotidien. Je vais te fumer à FIFA, c'est je vais te battre. C'est ce qu'il me dit. D'ailleurs, pendant la pause, Amal Bentounsi me dira, c'est vraiment des chiens, ils veulent le fumer au sens de justement le condamner en justice. Comme quoi, fumer ne veut pas forcément dire cramer, répondra Joe. Voilà, donc il y a plusieurs exemples un peu de ce genre. Un autre, c'est sur l'usage des insultes, évidemment. Il y en a une qui est, on vous voit comme des chagas. Joe répond, bah, ça veut dire des méchants, des mauvais. L'assesseur lui dit, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est un mot d'origine sénégalaise qui veut dire péripapéticienne. Joe demande, ça veut dire quoi ? Des prostituées, lance l'assesseur un peu brutalement, la salerie plutôt du côté gauche d'ailleurs. Joe répond, non, ça veut dire des mauvais, méchants, c'est une expression du 20e. L'assesseur, du patois du 20e, quel terme précis pour un objet si général ? On en débattra. Le ministre de l'Intérieur traduit bien en prostituée dans sa plainte, ajoute le procureur. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est la manière dont une langue de l'autre, on va dire, est défini à partir de critères de race et de classe, la référence au Sénégalais, un patois du 20e, opposé au terme savant, au dictionnaire, péripatéticienne, que Joe ne connaît pas, ce qui lui vaut également des moqueries, et manière aussi dont la figure de la prostituée paraît plus insultante que mauvais méchant, alors que, bon, a priori... Le débat, plus que sur le sens des mots, sur la valeur métaphorique ou figurée, est résumé par l'avocat du syndicat policier à la fin de cette partie de l'interrogatoire. Ce ne sont pas des termes artistiques, mais des termes qu'on entend quotidiennement à notre rencontre, des insultes et des gestes. En gros, l'assignation à la violence est liée à la construction du caractère prosaïque du rap. Ici, c'est le lien fait entre des paroles du rap et des paroles qui, selon le représentant du syndicat, seraient réellement entendues par les policiers au quotidien. À cela, la défense répond en reprenant en partie la jurisprudence Orelsan, c'est-à-dire celle selon laquelle le rap serait un genre par nature vulgaire, violent, etc., en disant, dans sa plaidoirie, il rappe depuis ses 13 ans, ce ne sont pas des comptines. Il ne peut pas raconter la dureté de la rue, des bavures policières comme dans le 6e arrondissement. Il le raconte comme un rappeur, avec des métaphores de rappeur. Ici, il ne s'agit pas d'avoir un débat sur l'essence du rap et la définition sociale qu'en proposent les avocats et Joe. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'usage d'un vocabulaire populaire pour parler de violence devient une prise à la prosaïsation, là où on n'imagine pas forcément la même chose quand un langage plutôt étiqueté bourgeois parlerait de violence. L'autre prise pour cette prosaïsation, c'est le choix esthétique d'une ambiguïté documentaire. En effet, Joe choisit d'insérer dans son clip, avec l'aide de Demolition, la plateforme qui l'aide à publier son clip, de vraies images qui introduisent de manière plus directe le clip au sein évidemment de la juridiction de l'injure, puisque le commissaire du 20e arrondissement est identifiable. Il fait donc ce choix esthétique de brouiller la frontière entre documentaire et fiction, et l'un des enjeux de procès sera justement de déplacer la question juridique de la liberté d'expression à celle de la diffamation. C'est pourquoi les questions se succèdent concernant la réalité ou non des violences policières, toute une lutte à court pour la définition du contexte, ce mot revient systématiquement, dans lequel ce clip a lieu. Est-ce celui des violences policières ou des violences sur les policiers ? La prosaïsation qui fait passer l'œuvre pour un témoignage diffamatoire pour les uns, engagé pour les autres, se justifie autant pour défendre le contenu politique de son propos, Joe veut quand même que la véracité de ce qu'il dit soit reconnue, un peu comme la rumeur au moment de leur procès, autant que pour la faire sortir de la juridiction de la liberté d'expression aux yeux de laquelle le clip peut sembler trop difficilement condamnable. Voilà, donc c'est un peu paradoxal parce qu'il y a une prise à la prosaïsation dans ce qui est en fait un choix esthétique de brouillage qu'en plus il revendique comme une spécificité du rap, ce lien. Voilà. Et ça aboutit en fait cette délégitimation politique à artistique à une délégitimation politique. J'explique de sa parole. John est légitime politiquement qu'en tant que témoin, qu'en tant qu'habitant à la Banane, donc au quartier des Amandiers, qu'en tant qu'il a été victime de violences policières. Il ne pourrait pas l'être de manière générale en tant qu'artiste engagé qui parle de causes qui le tiennent à cœur. Et les avocats des parties civiles n'auront cesse de le décrédibiliser en tant que tel, en tant que témoin engagé, en disant « vous avez déménagé, vous ne pouvez plus parler de ça », etc. Ce qui semble gêner plus profondément, c'est la mise en scène dans une vidéo d'une institution policière en soi violente et non seulement des bavures, des ratés, paradoxalement, vu le titre, a fortiori à travers l'utilisation de vidéos réelles. Reste le fait que le simple fait de personnaliser ces questions concernant l'expérience de la violence policière constitue une réduction de sa parole politique qui ne pourrait être à la limite qu'une voix immergée particulière, valable parce qu'elle témoigne et non parce qu'elle a une portée générale. Et ça, c'est une figure centrale, en fait, pour moi, de la minorisation. C'est refuser le droit à une parole universelle, le dominer toujours du côté du particulier. Et le passage le plus emblématique de cette double illégitimation et minorisation se situe dans le réquisitoire de l'avocat de M. Tremblay, donc le commissaire. Ici, on ne parle pas d'un genre musical, mais d'une idéologie. Et quand je parle d'une idéologie, je ne parle pas de Karl Marx. Rire. Son mépris ici condense la double illégitimation. C'est trop brut pour être de l'art, donc c'est l'expression d'une idéologie politique. Mais elle aussi trop brute pour être réellement politique, donc redevable de la liberté d'expression et éloignée de la finesse des libres de Karl Marx. Et bon, en cet endroit, évidemment, il y a une pique au soutien éventuel de Joe, parce qu'ils savent qu'il est plutôt soutenu par des gens de gauche, donc un éventuel clivage politique en arrière-plan du procès. Voilà, à la fois trop brut pour la jurisprudence Orelsan et trop brut pour constituer une prise de position politique. Voilà où se situe le clip selon les parties civiles. La prosélytisation passe donc par la négation d'une persona d'artiste et plus particulièrement d'artiste engagé, et ce par une assignation à des catégories sociales particulières liées aux stéréotypes d'une jeunesse populaire racisée. Et là, c'est ce qu'on voit dans mon dernier temps. En niant le caractère esthétique de l'œuvre, effectivement, par ce processus de rendre prosaïque, on fait glisser l'objet du jugement de l'œuvre à la personne qui la porte et les stéréotypes auxquels ses propriétés sociales le renvoient. Plusieurs figures négatives sont mobilisées pendant le procès. Vous avez la figure du délinquant anti-flic, entre guillemets. Alors, l'imaginaire des illégalismes populaires, de la petite délinquance, est très présent dans le rap d'aujourd'hui. Et c'est notamment celui dans lequel s'inscrit Joe de son propre discours, dans ce rap de rue qui revendique un ancrage particulier. Ce qu'il appelle son classique, entre guillemets, est un long clip où le héros est d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, incarné par le jeune Moa Lasquale, qui n'est pas encore en couverture des Inrecuptibles à ce moment, qui s'appelle La Rue, qui condense les thèmes propres à cet imaginaire. L'ambiguïté avec le réel, l'esthétique réaliste, est aussi un choix artistique de la part de Joe, qui s'inscrit dans une histoire esthétique du rap, marquée par des courants, des styles collectifs et individuels. Et ça, c'est assez important, en fait. Les avocats des parties civiles vont s'appuyer sur ce réalisme pour nier la légitimité de sa parole d'artiste, mais le truc, c'est qu'ils déplacent un imaginaire mobilisé dans un cadre artistique à la réalité dans le procès. En témoigne la question du financement, avec une culpabilisation paternaliste également. En parlant de sa sœur, elle travaille, elle, au moins. Vous n'avez pas honte de faire financer vos clips par un éboueur, en parlant d'un ami de Joe qui l'aide à financer ses clips. Joe me dira à la sortie du procès, énervé, il voulait absolument me faire dire que je bicrave, ça veut dire vendre de la drogue illégalement. Le déplacement du jugement de l'œuvre à la personne est clairement identifiable ici. L'autre processus par lequel Joe est sans cesse ramené à la figure du délinquant consiste au rappel fréquent des deux procès du quai de Valmy, donc de la voiture brûlée, et de Viry Châtillon, dont on a entendu parler récemment, de jeunes donc condamnés pour des violences envers les forces de l'ordre, où l'assesseur lui-même se permet un rappel sur le degré de brûlure des policiers, etc. Comme si Joe était contaminé par le fait que le procès médiatique de Valmy ait été récemment jugé par le même tribunal, et évidemment par l'insert ignorant au demeurant dans le clip de la vidéo de la voiture brûlée, et contaminé par ses propriétés sociales qui le rendraient forcément plus proche des jeunes de Viry Châtillon qu'une autre personne. La prétérition du procureur est à cet égard très significative. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable, mais il y a deux jours, il y a eu un incident du logement de gendarme. L'idée de cause à effet, des paroles aux actes, ça ne vous fait pas réfléchir. On rejoint là aussi une sorte d'invariant de la pénalisation juridique du rap, définie comme coupable idéal, donc ça c'est Marie Sonnette 2013, qui deviendra la cause majeure des violences qui auraient lieu dans les quartiers populaires. L'autre figure négative de jeunesse populaire racisée, mobilisée par les avocats des parties civiles et le procureur, c'est l'affaire Dieudonné, Donc, au moment où il y a la comparaison avec l'affaire Dieudonné qui porte aussi sur la liberté d'expression, il y a quelques protestations dans la salle, notamment de mon côté, au point que le procureur s'énervera et dira « Et si ça ne vous convient pas ce que je dis, vous sortez, la liberté d'expression, elle est pour tout le monde. » On peut émettre l'hypothèse que ce sont les propriétés sociales de Dieudonné et de Joe, des hommes noirs issus des quartiers populaires, qui l'ont incité à produire ce rapprochement, et non, par exemple, avec une autre figure qui a été, elle aussi, condamnée, enfin non, mis en jugement pour des histoires de discrimination dans des œuvres, Michel Houellebecq, par exemple. Bizarrement, il ne pense pas à mobiliser Houellebecq. Dans un contexte, en plus, donc l'accusation d'antisémitisme, c'est Dieudonné et assez lié à ça, dans un contexte où les personnes racisées de quartiers populaires sont associées à cet antisémitisme. Il faut conclure. Ah ouais, mais la figure du... le plus choquant, c'est la figure du terroriste. Vraiment, ça arrive 7 fois dans le procès, 7 occurrences, 5 fois dans la bouche des accusants. Il y a une comparaison implicite au... Ouais, je vais conclure. L'affaire Joel Fenoux, si elle est une affaire et pas seulement un énième procès du rap, à peine couvert dans les rubriques faits divers, c'est parce qu'elle est traversée d'enjeux politiques. La période est particulièrement marquée par les débats autour des violences policières et autour des violences faites aux forces de l'ordre. Le contexte politique apparaît donc comme un facteur déterminant pour qu'un clip ou des paroles de rap puissent être montées en affaire. Cela peut expliquer pourquoi L.I.M. ou d'autres rappeurs au potentiel aussi injurieux ne font pas l'objet de plaintes. Le clip de Joe est reçu comme un positionnement politique fort dans ces débats, où ce qui gêne est peut-être surtout le fait qu'il s'agisse d'une œuvre qui, par l'insert de vidéos documentant le maintien de l'ordre ou des contrôles de police routiniers dans un quartier populaire de Paris, suggère que l'activité policière n'est pas violente que dans ses ratés, mais dans son fonctionnement routinier. Que ce soit du côté du jury ou du côté du procureur, des parties civiles, il semble qu'au centre de l'esprit de l'accusation, il y ait cette contestation du monopole étatique de la violence légitime. L'analyse du procès à travers les catégories de classe et de race permet de voir comment l'institution judiciaire s'appuie sur ses rapports sociaux de pouvoir pour discréditer la légitimité d'un tel message politique. Et surtout, c'est ça qui est important, le droit de l'exprimer publiquement de cette manière. C'est-à-dire avec un clip réussi, la juge elle-même dira « Votre musique a quelque chose d'entraînant qui buzz, entre guillemets. Le nombre de vues, les propositions de signature reçues par Joe après le clip seront évoquées plusieurs fois comme des éléments à charge. » Donc voilà, un clip réussi avec un écho donc potentiellement plus fort que par exemple une tribune de chercheurs sur le même sujet. C'est la forme artistique de ce message politique qui pose problème, et une analyse de classe genre permet de voir comment l'institution judiciaire organise la division entre ceux qui ont le droit à la véhémence politique dans un cadre artistique et ceux qui en sont privés, ou du moins pour lesquels c'est moins évident.
Beaucoup pour donc vos interventions. Je remercie les organisatrices et les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de lire ces textes que j'ai trouvé vraiment passionnants. Il nous reste peu de temps pour la discussion, une 20aine de minutes. Je ne sais pas si on peut déplacer un tout petit peu. Je pose la question. Voilà. Non ? Ok. Donc du coup, je vais être très bref. Je voulais dire des choses par rapport aux points communs entre les différentes interventions, mais je n'aurai pas le temps. Donc je vais juste poser quelques questions aux unes et aux autres. Enfin, aux unes. Ouais, et autres, que je me suis posé, et vous choisissez les questions qui vous intéressent. Voilà. Donc, pour l'intervention de Pauline, donc, je me demandais, en fait, comment est-ce que tu pourrais dire un peu plus sur ce que tu as appelé la bourgeoisie communiste, ce qui peut paraître contradictoire dans les termes, mais qui renvoie aussi à ce que des gens d'Ivry appellent les bocaux. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une sorte de bourgeoisie intellectuelle, donc si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce concept de bourgeoisie pour parler d'eux? Donc finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils ont comme capital culturel, et du coup, ça renvoie à ce qu'on entend exactement par bourgeoisie. Et la question de l'encadrement de cette bourgeoisie communiste des classes populaires. Et ta thèse, en fait, me fait beaucoup penser à la thèse de Samir Haj Belkacem, qui a travaillé sur plutôt les éducateurs au Blanc-Ménil. Comment est-ce que le dispositif de promotion de la création artistique dans les classes populaires s'inscrit dans un cadre plus global d'encadrement des classes populaires? Voilà, avec ces dimensions ambivalente d'encadrement. Parce qu'à la fois, il y a les dimensions de promotion, comme tu l'as dit, d'émancipation, etc. Mais en même temps, lorsqu'un concert se passe mal, eh ben, il y a un déficit de reconnaissance qui a lieu. Deuxième question, c'est sur la spécificité de Saint-Denis et de Nanterre. Donc tu dis les banlieues rouges. Bah, Nanterre et Saint-Denis, c'est quand même assez particulier dans l'histoire des villes communistes en général. Et il y a un peu, même en général, l'histoire ou la sociologie du communisme municipal s'est beaucoup focalisée sur ces villes. Et il y a d'autres villes qui sont aussi communistes, mais qui n'ont pas forcément eu cette histoire de politique culturelle en direction des classes populaires. Est-ce que voilà, tu as des éléments par rapport à des villes autres que Nanterre et Saint-Denis? Ensuite, sur l'intervention des Velia, Mayenga. Donc là aussi, très rapidement, donc j'ai beaucoup aimé la typologie des différents récits. Et je me suis posé la question de la dimension du genre dans cette émancipation. Parce que dans les discours publics, voilà, donc la figure de la femme issue d'eux, c'est quelque chose qui est très promu dans plein de types de discours. Et je me posais cette question, si tu retrouvais ça dans les synopsis. Du coup, ça pose aussi la question du synopsis à la fin. Tu as dit que c'était les synopsis, mais ce n'était pas le contenu des films. Donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire... est-ce que le contenu des films en tant que tel est très différent du synopsis qui a été présenté pour obtenir un financement? Voilà. Donc, du coup, quelle conclusion on peut tenir sur les synopsis que tu as analysés de manière très intéressante par rapport à ce qui est dit? Parce qu'on peut pondre entre guillemets un synopsis pour avoir l'argent et ensuite avoir un véritable discours critique dans un documentaire, dans un film, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si dans ton corpus, il y a des films de Rabah Hammerzaïmej, par exemple, qui, voilà, le dernier Maquis, ou d'autres, qui ont peut-être obtenu ce genre de financement, mais qui, dans le contenu, sont plutôt dans une logique de subversion des catégories de classe, raciale, etc. Voilà. Ensuite, une question pour Emmanuel. Donc là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, ton analyse ethnographique de l'audience. Et donc, la question que tu poses au départ, c'est celle de l'influence de l'audience sur la décision judiciaire et de comparer cette affaire de Joël Fénot avec d'autres affaires, notamment celle de la rumeur et celle de Orelsan. Et tu m'as dit juste avant que tu faisais aussi d'observation d'autres affaires. Et du point de vue de la sociologie de la décision judiciaire, il me semble qu'il y a un élément qui mériterait en fait d'être approfondi, c'est le droit en lui-même. C'est-à-dire comment est-ce que des catégories du droit sont manipulées pour finalement faire basculer un rappeur du bon ou du mauvais côté. Donc il y a le bon rappeur ou le mauvais rappeur, quoi. Et ça, donc tu en parles rapidement dans la sémantique sur ce qu'on entend par fumer, ce qu'on entend par dompter, frapper, etc. Et il me semble que pour comprendre finalement pourquoi est-ce que la décision judiciaire a été prise, il faut rentrer un peu dans la tête des juges qui doivent qualifier juridiquement et doivent faire correspondre un texte avec un texte juridique. Puis deuxième question qui porte plus sur la manière dont on qualifie le discours de Joël Fénot comme idéologique. Des fois, donc, quand tu dis prosaïsation, tu dis qu'on dénie le statut d'artiste, donc on refuse la métaphore, on refuse le discours satirique, etc. Mais en même temps, il y a à la fois un déni de la dimension politique de son discours et une assignation politique au discours. Donc il y a quelque chose qui est un peu ambivalent. On ne sait pas trop finalement c'est quoi qui est politique dans cette histoire, quoi. Et en quoi ça peut jouer dans la décision judiciaire.
J'aurais bien aimé sacrifier l'une de mes questions, mais j'ai vraiment envie de poser des questions à toutes les trois. Merci pour vos interventions. Je commencerai par la dernière, Emmanuel. Je me demande si la solution pour les problèmes de Joël Fénot ne serait pas de placer du Jacques Brel dans chacun de ses titres et d'être un peu plus blanc, comme moi, la Squale. Question que je me pose, sincèrement. Pour Evelia, tu as dit à la fin Le micro marche ou pas? Bref. Pour Evelia Chadi à la fin, qu'il n'y a pas d'exotisation. Naya. À débattre, donc il y a altérisation, pas forcément exotisation. Est-ce que tu ne trouves pas que le fait que tous ces films parlent plus ou moins de la même chose, aussi bien en fiction que dans la non-fiction, que dans le documentaire, est-ce que ça ne relève pas d'un choix politique du CNC de raconter une seule histoire de son, enfin, est-ce qu'il n'y aura pas un white gaze dans ce choix-là, même si tu as bien conclu à la fin, tu as bien conclu que tu n'es pas là pour taper sur le CNC, et plutôt que d'une, je sais pas, d'un courant artistique. Donc comment tu expliques cette description massive par les images, par l'audiovisuel? Cette description unique du non-blanc. Juste pour te dire que la définition de diversité m'a elle-même déjà choquée en se basant sur l'immigration, alors que, bref, sur des gens qui sont arrivés en France en voyageant, en fait, en s'installant et en faisant des enfants issus de l'immigration. Pour Pauline, tu as dit aussi à la fin, une culture minoritaire et une perspective universaliste ne sont pas toujours en opposition. Je rappelle, la culture minoritaire, c'était sur le rap. C'était bien ça. Donc, est-ce que... pour moi, c'est oui, justement la source, c'est malheureusement le fait que ce ne soit pas toujours en opposition qui est la source de l'appropriation culturelle. Mais est-ce que tu le vois d'une façon plus positive? Et essaie de me vendre ta façon positive si c'est le cas. Merci.
M'entends? Oui. Merci vraiment à toutes les trois pour vos trois superbes présentations. Je vais aussi essayer d'aller hyper vite pour laisser du temps. Pauline, j'avais deux questions. Une première question sur la première période. Merci beaucoup pour cette ethnographie hyper précise qui apporte des éléments très importants pour cette histoire de l'institutionnalisation des musiques hip-hop. Quand tu parles sur la première période dans les années 90 en disant que ce ne serait pas une reconstitution des acteurs quand ils disent qu'ils étaient contents de faire le premier concert du rap, sur quoi tu peux te baser pour expliquer, comment est-ce que tu peux expliquer que ce n'est pas une reconstitution de leur part dans leur discours, notamment quand on sait la fierté avec laquelle ils peuvent avoir à le dire aujourd'hui, notamment je pense à Zebrock, le film qu'ils ont contribué à produire sur 93, La Belle Rebelle, et du coup tout ce discours très politique de dire le 93 est le terreau des musiques hip-hop, et donc effectivement cette importance qu'ils ont à vouloir en parler. Et j'ai une deuxième question beaucoup plus générale, parce que dans ton titre, tu parles de politique colorblind, et j'ai pas spécialement l'impression que tu l'aies beaucoup évoqué dans ta communication. Donc, si tu as des éléments à nous donner sur justement cette invisibilisation des rapports de race, c'est comme ça que je le comprendrais, ces politiques colorblind, dans cette institutionnalisation-là. Et j'ai aussi deux questions pour Emmanuel. La première étant, en faisant cette ethnographie, je sais à quel point tu as pu faire des entretiens avec Joël Fénot, etc. Il y a quelque chose que tu t'évoques pas ici, c'est les choix de défense de Joël Fénot, que ce soit des choix de défense dans le tribunal ou à l'extérieur. Et on sait que, à un moment donné, avec leurs avocats, les rappeurs, à ce moment-là, ils ont besoin de choisir de quelle manière est-ce qu'ils vont se défendre. Est-ce qu'ils se défendent sur la légitimité de leurs paroles? Est-ce qu'ils se défendent sur le côté métaphorique? Alors, par exemple, des gens comme La Rumeur avaient effectivement décidé de dire non, on dit que la police tue et on va expliquer pourquoi la police tue. Alors, c'était un peu difficile et différent parce que effectivement ils étaient attaqués sur des textes de journaux et pas sur une œuvre, mais du coup là j'ai l'impression que dans ce que tu expliques dans ton ethnographie, c'est qu'ils ont quand même beaucoup axé sur la métaphore, sur le fait que c'est une œuvre d'art, etc. Et à quel moment est-ce que éventuellement par les témoins qu'ils vont convoquer, est-ce qu'ils convoquent aussi des sociologues, des violences policières ou ce genre de trucs pour dire on a le droit de parler de bavures parce qu'à un moment donné il y a vraiment des bavures, ou est-ce qu'au contraire ça a été pas choisi cet axe de défense là pour plutôt plutôt convoquer, alors on pourrait parler de tellement de procès, enfin voilà, mais plutôt convoquer des références esthétiques, alors que les références esthétiques leur sont plutôt niées et déniées par le tribunal. Donc qu'est-ce que lui a choisi comme type de défense, aussi bien dans le tribunal qu'à l'extérieur, c'est-à-dire face à la presse, etc. Voilà, et l'autre chose que tu n'as pas forcément évoqué, c'est comment est-ce qu'on pourrait aussi analyser, est-ce qu'on pourrait pas aussi analyser l'attaque sur Joël Fesneau et sur le fait qu'en fait, s'il dit ça, ça va être suivi des faits, comme aussi une attaque sur le public potentiel. Mais sur le public potentiel de Joël Fesneau, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne parle pas. Alors, c'était dans le procès sur Youssoufa notamment, où Éric Zemmour et ses avocats expliquaient qu'ils n'avaient pas peur des gens qui lisaient Le Monde quand Youssoufa allait écrire dans Le Monde. Par contre, ils avaient peur des gens qui écoutaient Youssoufa quand ils l'écoutaient dans les banlieues malfamées françaises. Merci.
On arrête là. Une dernière ? Allez.
Merci. Je vais faire bref. Donc c'est une remarque, une question qui s'adresse à Evelia. Merci beaucoup de ta présentation. La première, en fait, c'est une réaction à la liste des prénoms que tu as mentionné et où j'ai attrapé comme ça Marie, Joseph, Jean et Mohamed. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui introduit en fait aux effets d'assignation religieuse, qui est peut-être un point à développer, et aussi aux effets relationnels qu'il y a dans tous ces portraits de caractérisation qui croisent tous nos trucs. Et alors, une deuxième question qui est inspirée simplement par la définition institutionnelle de la diversité. Je me demandais comment tu différencies un discours xénophobe d'un discours raciste. Parce que il me semble qu'on peut lire simplement une définition de l'étrangeté telle qu'elle circule depuis l'Antiquité dans cette définition un peu courte de l'institution. Tu vois ce que je veux dire
Okay. On arrête là.
Ok.
Je sais pas, peut-être.
Qui veut commencer ?
Pour la question de prendre un peu plus en compte la sociologie des décisions judiciaires, effectivement, la question du droit, j'ai pas eu le temps de trop en parler, mais c'est tout l'enjeu de faire passer ça de la condamnation de la législation sur la liberté d'expression à celle de l'injure, en fait. Et en fait, à force de le faire passer pour bête et méchant, c'est-à-dire en focalisant sur l'insulte et l'absence de travail artistique, la juge va finir par glisser son regard complètement de la forme artistique de l'objet au fait qu'il insulte en niant le fait que c'est dans un contexte artistique et musical, au fait qu'il insulte en fait notamment le commissaire du 20e. Il dit je pisse sur la justice et sur la mère du commissaire. C'est vrai que le son commence comme ça. Donc c'est tout l'enjeu était de faire passer d'injure voire diffamation. Il y en avait qui voulaient que ça aille jusqu'à diffamation, c'est encore plus grave mais diffamation, c'est pas allé jusque là. Ça a été injure envers le commissaire du 20e parce que il y avait un insert où on voyait son visage, même si c'est légal parce qu'il était en service, donc on a le droit de filmer des policiers en service, mais c'est comme ça qu'en fait le truc s'est noué. Mais tout cela vient de tout le travail de prosaïsation, de focalisation sur la violence et de la dangerosité et la stupidité du message convoqué par les avocats des parties civiles, en fait. Pour la question de Joe sur... s'il était un peu plus blanc, c'est vrai que j'ai trouvé, pour l'instant c'est juste une hypothèse, mais je vous ai parlé du procès d'Angoulême, là c'est deux rappeurs blancs effectivement qui ont des rapports qui ont des paroles anti-police, et ça sera qualifié de bêtise, là où chez Joe il y a direct l'idée d'une dangerosité. J'ai pas eu le temps de développer, mais la question du terrorisme c'est hyper choquant en fait, et ça a été central vraiment dans les trois réquisitoires, en fait. Dans les trois réquisitoires, ils ont parlé de la figure du terrorisme. Ils ont dit oui, vous me rappelez, quand vous dites on veut la guerre, pas la bataille, c'est une des paroles de Joe. Il dit vous me rappelez certaines personnes dans les quartiers qui pensent que pour que, en gros, ça aille mieux, il faut faire la guerre. Non, et en fait, il compare clairement ça à des prêches djihadistes. Après, ça vient d'autre chose. D'ailleurs, l'avocat sera obligé de dire mon client est de confession chrétienne, comme si c'était un élément pour le défendre. Pour le choix de défense de Joe et de l'avocat, en fait, c'est simple. Quand il s'agit de questions qui ont trait à la forme, le choix de défense est esthétique, de dire « c'est mon monde, c'est voilà ». Et quand l'accusation est dans le fond, c'est assez logique, c'est plutôt de revendiquer la légitimité de ce qu'il raconte, mais c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est toujours en tant que témoin immergé, particulier, parce qu'il a vécu lui-même des bavures policières, parce que, enfin, des contrôles abusifs notamment, du harcèlement policier, que c'est légitime, et pas parce que, comme Mathieu Kassovitz, qui est mobilisé à deux reprises dans le procès, se permet d'avoir voilà, un discours général, un porte-parole universel de causes qui lui tiennent à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la défense, en fait, Maître Saïd Harir est un ami de Mokobé, un rappeur du 113, qui connaît Joel Feno et il lui demande de le défendre bénévolement. Donc en fait, Maître Saïd Harir n'a pas fait non plus la plaidoirie de sa vie. Et il a quand même beaucoup laissé à Joel le soin de... Ouais, il lui a dit en gros, tu te défends sur le fait que c'est esthétique, que c'est pas toi réellement, etc., qui dit ça. Et en même temps que le fond de quand même ce que tu dis, tu es un témoin de la violence policière dans les quartiers, etc. Donc tu joues sur ces deux choses. Pour la question du public, oui, évidemment, c'est au centre aussi de la perception de la dangerosité de ces clips. Et c'est notamment perceptible quand ils évoquent le buzz, le nombre de vues, le fait que c'est scandaleux que suite à qu'ils surfent en fait sur des choses horribles, des drames, des violences policières, des morts, etc., pour en fait faire parler de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement évoqué par les avocats des parties civiles. Et c'est l'idée, oui, que en gros, on a un peu peur pour ce public. Et c'est aussi la figure de ce que je dis, la figure de l'éduxpé qui revient derrière. C'est Virus, un rappeur qui va intervenir en plus cet après-midi, qui a une phrase, c'est « J'ai toujours trouvé ça suspect, cette manière d'attendre de nous qu'on soit des éduxpés. » Et Joe va aussi jouer sur ce terrain-là en disant « Non, mais dans mes interviews, je dis aux petits qu'il faut bien travailler à l'école, etc. » Et à l'inverse, les avocats des parties civiles vont dire « Surtout quand vous avez un public fragile comme le vôtre, vous ne pouvez pas jouer avec les gens qui vous admirent, etc. » Donc évidemment, il y a aussi les rapports sociaux de pouvoir qui jouent dans le public imaginé de Joe.
Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je pense que je ne pourrais pas répondre à toutes. Voilà, je suis désolée si j'en oublie. Juste sur le genre, oui, c'est un peu le grand absent. C'est aussi une des raisons du changement de titre. En fait, c'est un peu le grand absent de ma présentation parce que c'est lié, je pense, au fait que j'ai choisi de partir d'un truc vraiment inductif, donc de partir des données et de voir quelles étaient les grandes récurrences dans les modes de désignation. Et en fait, le genre, il n'est pas tellement... Enfin, déjà, je pense que c'est aussi lié à ma méthodologie que dans le codage, peut-être, j'ai pas assez, Je pense que je suis un peu passée à côté dans le codage déjà, et qu'en plus, dans les synopsis, les personnages sont peu désignés par le genre. En fait, ils sont vachement regroupés dans des groupes d'habitants, des groupes de jeunes, machin. Le genre, c'est vraiment secondaire par rapport à l'âge ou le lieu de résidence, par exemple. Donc ça, c'est vraiment lié à mes données et peut-être aussi à un biais méthodologique. Et pour regarder sur le genre, je pense qu'il faut que je regarde du côté des histoires d'amour. Donc voilà, c'est souvent des couples mixtes qui marchent pas avec des conflits culturels, etc., machin. Et là, c'est intéressant de voir qui est le mixte dans le couple. Généralement, moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt les femmes, mais voilà, il y a aussi quelques trucs sur les questions de voile et tout, mais il y a vraiment, en fait, il n'y a pas tellement de trucs sur ça. Et sur le lien entre les synopsis et les films, en fait, bon, les synopsis résument quand même les films, hein, de manière générale. Il y a quand même un regard de l'institution qu'ils aient aidé les films sur le film qui est fait, quoi. On ne peut pas écrire un synopsis et faire l'inverse. Après, je pense qu'il y a quand même des stratégies de résistance des producteurs. Par exemple, je crois que c'est Yasmina Hadi, mais je ne suis pas sûre que c'était elle, mais qui a fait un film qui s'appelle Ici on a les Algériens sur le 17 octobre 61. Et j'ai vu, par exemple, dans les fichiers, qu'elle n'avait pas mis ce titre-là à la base quand elle avait demandé le financement. Donc il y a ce genre de truc, genre on va mettre un autre titre et après on va le changer, on va mettre un truc un peu plus engagé quand on sort le film. Il y a, je pense, des stratégies d'ajustement. Et c'est pour ça que je disais que c'était important de vraiment penser le synopsis comme... un truc qui est écrit pour l'institution et donc du coup vraiment étudier l'anticipation des attentes. Et étudier l'anticipation des attentes, c'est aussi étudier l'anticipation des attentes commerciales, c'est-à-dire prendre en compte les logiques commerciales de ce qui s'est fait, de ce qu'on connaît dans le cinéma, etc. Et voir le commercial, il façonne les représentations et les anticipations des représentations. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça rejoint un peu la question de l'intentionnalité du CNC et du choix politique du CNC de financer ces représentations. Enfin, voilà, il faut aussi voir que le cinéma, c'est un champ, c'est une industrie, etc. Donc il n'y a pas forcément un choix politique du CNC de dire on va exotiser la diversité, mais c'est aussi un effet du champ, en fait. Donc voilà, mais ça, c'est un peu mon sujet de thèse, donc je ne peux pas trop répondre à toutes ces questions parce que je suis petite. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps pour répondre ou si je passe la parole. Mais... et peut-être juste sur... ouais, sur la question, du coup, discours... Enfin, je ne sais pas si j'oublie des questions, mais discours xénophobe, discours raciste, je ne suis pas sûre... de comprendre, mais peut-être on pourra en reparler. Mais en tout cas, je trouve que sur juste la définition du CNC, en fait, en même temps, xénophobe, bon, dans la définition, il y a les dom-toms, donc on inclut l'outre-mer dans... c'est pas forcément que un truc de sortie de la frontière nationale, puisqu'ils mettent les dom-toms dedans. Et en même temps, il faut voir aussi que dans les synopsis, il y a pas mal de gens qui sont inclus et qui ne sont pas dans cette définition. Genre, il y a beaucoup d'histoires sur les Roms qui sont soit gitans, soit Roms, soit autre chose. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui sont exclus par rapport à la définition, genre, en fait, tout un ensemble de vagues de migration dont on ne parle pas du tout, genre, je ne sais pas, les Italiens, les Polonais, ils sont complètement absents, et les Asiatiques qui sont aussi complètement exclus de cette définition de la diversité et doublement, enfin, du coup, invisibilisés parce qu'ils sont aussi absents des synopsis, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment aux questions, mais c'était des prolongements, voilà.
Alors, moi, merci beaucoup à tous les trois pour vos questions, elles sont super intéressantes. Si jamais j'y réponds pas assez longuement ou pas bien, on peut continuer après ou même par mail avec grand plaisir. Alors, parce que notamment la première question qui m'a été posée sur ces bourgeois communistes nécessiterait des grands développements. Alors, donc, je l'ai précisé, donc c'est pas une notion, une catégorie scientifique, c'est une catégorie du coup employée indigène, employée par un enquêté. Comme dans ma thèse, je prends le temps d'analyser très finement les dispositions et notamment l'acquisition. Comment est-ce que ces individus ont acquis un capital culturel grâce au Parti communiste? Là, j'ai voulu éviter de rentrer dans ces détails, donc j'ai mis un mot. Surtout que derrière, en fait, il y a deux fractions différentes. Enfin, il y a une génération qui a pris parti entre les années 60 et la fin des années 70, que j'ai nommée génération Valdecroché, parce qu'ils prennent parti au moment où c'était lui le secrétaire général. Et il y a la génération des enfants, qui ne sont pas les enfants directs, mais qui sont des enfants d'individus qui ont pris leur parti au même moment. Et donc là, je suis notamment en train de faire deux articles sur chacun des générations, où j'essaye de comprendre comment ils ont acquis un capital culturel grâce au PCF. Et en fait, je dis qu'ils entrent dans les classes moyennes à capital culturel française. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'au sein notamment de la Seine-Saint-Denis, ils formaient une élite locale. Donc, il y a aussi un apprentissage de manière d'être, d'éthos, hyper dominant, en fait. Dans la société française, ils sont classe moyenne, mais localement, donc moi, j'emploie pas ce mot, mais disons que je le déconstruis et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Et du coup, localement, ils peuvent être vus notamment comme comme une bourgeoisie rouge, même si du coup, au sein de la société française, moi, je parle de classe moyenne. Voilà, mais si tu... Ouais, pour plus de précision, on peut discuter. Ouais. Et sur la question de l'encadrement, là, pareil, du coup, il faudrait que je connaisse plus les travaux aussi de Samy. Du coup, là, ce qui est intéressant, il me semble, du coup, c'est qu'on est à la frontière, en fait, entre... Parce que... Enfin, et du coup, là, j'ai essayé de le montrer, c'est que ça, c'est pas d'emblée vu comme des pratiques de classe populaire, comme un encadrement. Il y a aussi une volonté d'inscrire ça dans la création. Et d'ailleurs, ce qui me fait rebondir, du coup, à la question entre que tu m'as posée au fond. Donc, comment je peux te présenter ça de manière positive entre donc une culture minoritaire et une culture universaliste, notamment donc sur le troisième temps, donc c'est quelques professionnels de la culture dont j'ai parlé, notamment je pense à Fabien Barantini, lui donc il a ou même Edgar Garcia de Zebroc, ils ont une lecture de c'est un art minoritaire qu'il faut défendre, notamment parce que dans l'entrée dans l'âge adulte, beaucoup de cette jeunesse en fait s'éloigne du hip-hop parce qu'ils trouvent du boulot, enfin voilà, donc ils font autre chose. Donc eux, ils veulent que cet art ne meure pas aussi. Évidemment, cet art tel qu'ils le conçoivent, engagé et tout. Mais ils ont une lecture, ils ont une grille de lecture qui est ancrée dans le champ artistique. Donc ça veut dire que, mon coco, tu vas pas te contenter de, je sais pas moi, d'un texte à moitié mal rédigé. Enfin, du coup, il les pousse et il y a vraiment des trucs un peu de formation. C'est notamment le rôle que se donne son divers. Moi, je me souviens d'avoir vu, par exemple, La Rumeur avec un autre groupe beaucoup plus connu de rappeurs américains. Et notamment, en fait, ils les mettent en présence pour qu'ils se forment mutuellement. Et l'idée, c'est que la qualité monte, quoi. Et ça, c'est hyper fort dans leur discours, que ce soit le discours de Edgar Garcia ou de Fabien Barantini. Après, leurs exigences, c'est les exigences qui savent avoir cours dans le champ artistique. Et du coup, donc pour quelques-uns qui passent par ces institutions, notamment dirigées par des gens qui ont eu cette socialisation communiste, ils ancrent dans le champ artistique, quoi. Parce que du coup, ils se forment à la pratique sur scène, ils se forment à l'écriture, etc. Donc, du coup, je ne sais pas si ma réponse est claire. Comment les deux peuvent s'articuler? En l'occurrence, là, ça peut s'articuler. Et donc, ça donne aussi des professionnalisations un peu assurées, en fait, pour certains. Je ne sais pas si vous connaissez des... Quelqu'un comme Ded Kabal, par exemple, il est complètement inséré dans ce réseau institutionnel communiste et qui lui permet d'en vivre pleinement. Bah, si tu veux, on continue à discuter après, peut-être. Ouais.
C'est un des sujets, donc, à partir du moment où il y a professionnalisation, où la bourgeoisie rouge apprend aux rappeurs à écrire...
Il leur apprend les règles du jeu pour pouvoir être reconnu dans le champ artistique, quoi. Mais il est toilette paf, hein, je veux dire, ils veulent qu'ils gardent leur côté dénonciateur... Après, il y a aussi un travail, ils veulent les situer dans une continuité aussi de l'histoire de l'art, donc aussi leur faire rencontrer d'autres genres, du jazz, etc. Après, je suis pas là pour défendre ce qu'ils font, leur manière de faire.
Il faut arrêter.
Du coup, sur les autres villes, je te dirai lesquelles je peux parler. Et Marie, merci, on discutera après.
Merci.